Je viens d'introduire le livre des Nombres qui concerne en particulier une période de 38 ans pendant laquelle le peuple d'Israël tourne en rond dans le désert. Nous ne connaissons que bien peu de choses sur ce temps de jugement divin sur toute une génération. Cette absence d'information est une grande lacune de l'histoire sainte, analogue à celle qui sépare la fin de la Genèse du commencement de l'Exode. Le livre suivant. Les textes sacrés demeurent généralement silencieux sur les périodes qui n'apportent aucun élément nouveau au développement du royaume de Dieu. Dans le cas de l'histoire du peuple dans le désert, le motif du silence repose sur une raison plus grave encore, puisque les Israélites sont dans un état de rejet de la part de l'Éternel qui leur a littéralement tourné le dos. Tous ces événements, souvent sordides, ne sont pas simplement des faits historiques qu'on trouve dans les livres. Ce qui est arrivé aux Israélites me concerne directement. Voici en effet ce que les apôtres Paul et Pierre écrivent respectivement. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Fin de citation. Ainsi, les faits relatés dans les Nombres l'ont été pour mon bénéfice, pour m'instruire afin que je ne suive pas le mauvais exemple des Israélites. Un des épisodes rapportés dans ce livre concerne un châtiment de la nation rebelle par l'Éternel qui leur envoie des serpents à la morsure mortelle. Comme de coutume, quand la punition leur tombe dessus, le peuple reconnaît sa faute et ses responsables vont voir Moïse pour qu'il intercède pour eux. Alors, sur l'ordre divin, Moïse fabrique et élève un serpent de bronze en haut d'un mât. Il suffisait alors pour tous les Israélites qui avaient été mordus par ces reptiles de regarder la sculpture de serpent ainsi dressée pour avoir la vie sauve. L'apôtre Jean compare Jésus à ce serpent de bronze. En effet, le Christ a été élevé sur une croix afin que ceux qui placent en lui leur confiance, ne périssent pas, mais reçoivent la vie éternelle. Je lis le passage. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Fin de citation. Moïse ayant été élevé à la cour de Pharaon et dans toute la sagesse des Égyptiens, savait comment organiser par écrit toutes les pérégrinations de son peuple. Tout au long de ces années, il a tenu un journal de bord avec toutes les listes. Ainsi, celles des divers recensements ou l'inventaire des offrandes des chefs de tribu ont été enregistrées sur le champ. C'est à la fin de sa vie, dans les plaines de Moab et juste avant que ne commence la conquête, que Moïse a rassemblé, complété et édité les divers textes qui forment le livre des Nombres. Je commence à lire le premier chapitre. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation le premier jour du second mois, la seconde année, après leur sortie du pays d'Égypte. L'Éternel parla à Moïse. Le livre commence et se termine par cette affirmation qui confirme le rôle médiateur de Moïse, homme choisi par l'Éternel et véritable prophète. Cette formule, ou son équivalent, revient plus de 150 fois dans le livre des Nombres. Au moment où Dieu s'adresse à son serviteur, cela fait maintenant 11 mois que les Israélites sont arrivés au mont Sinaï et un mois que le tabernacle, lieu de la présence divine, est achevé. Ce dernier est appelé ici la tente d'assignation. Il y a aussi 15 jours que la célébration de la Pâque a eu lieu. D'accord, tout ça, c'est barbant. Mais cette datation à partir de la sortie d'Égypte est significative. En effet, cet épisode, raconté dans le livre de l'Exode, est l'événement fondateur du peuple d'Israël. On peut faire le parallèle avec notre calendrier chrétien qui a fait le choix de la naissance du Christ comme date de référence. Je continue. Il dit « Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël selon leur famille, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles. » Verset 2. Le peuple se subdivise en tribus, la tribu en famille, la famille en maison et la maison en individu. C'est la classification normale. L'organisation de la nation est à la fois militaire et civile, mais il s'agit avant tout de constituer une armée. C'est en tant que membre du peuple de Dieu que l'Israélite est enrôlé dans l'armée de l'Éternel. Quand ils sont sortis d'Égypte, ce fut Dieu qui se battit pour eux et tailla en pièces l'armée égyptienne. Maintenant, il va falloir qu'ils se défendent eux-mêmes. Tout cela est choquant pour un antimilitariste, je le conçois. Moi, je ne fais que commenter le texte et je n'ai aucunement la liberté de le changer ou de l'adapter. Je n'aime pas la guerre non plus, ni les complexes militaro-économiques. J'ai lu quelque part que les États-Unis à eux seuls absorbent 36% de toutes les dépenses militaires de la planète. Je ne sais pas si ces chiffres sont exacts, mais peu importe. Le gaspillage des ressources humaines dans ce domaine est catastrophique, mais ce n'est pas prêt de changer. Quand on pense à la misère qui pourrait être soulagée avec cet argent, bon, il faut que je m'arrête car j'ai le sang qui commence à me monter à la tête. Je continue le texte. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes, vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron, verset 3. Pourquoi 20 ans? Cela soulève la question de l'âge de la responsabilité d'une personne devant Dieu. Un peu plus loin dans le livre, nous lisons « Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous qui avez été recensés, vous qui avez donc 20 ans et plus, puisque vous vous êtes plaints contre moi, en aussi grand nombre que vous êtes, vous n'entrerez pas dans le pays où j'avais promis par serment de vous installer. » Fin de citation. Ceux qui avaient alors moins de 20 ans, ne serait-ce que de quelques jours et qui ont murmuré contre Dieu, s'en sont bien tirés. Ils ne sont pas morts dans le désert. À côté de cela, c'est à l'âge de 13 ans que, selon la tradition juive, mais pas selon les Écritures, un juif devient « fils de la loi », selon l'expression, c'est-à-dire responsable de respecter les termes de l'Alliance. Voilà ce que je peux dire pour cet âge de 20 ans. Ceci dit, et quitte à me répéter, je rappelle que l'Éternel a établi et consacré sa demeure au milieu de son peuple, ce qui est raconté dans le livre de l'Exode. Puis il a institué le culte qui doit lui être rendu, et il a promulgué les lois qui régissent tous les domaines de la vie israélite, ce qui est contenu dans le livre du Lévitique. Maintenant que l'alliance est conclue, le peuple est à même de marcher à la conquête de la terre promise. Dans ce but, il doit être organisé pour la guerre, comme une armée dont l'Éternel est le chef. Moïse reçoit donc l'ordre de procéder au recensement, dont la nature est essentiellement militaire. Cependant, il avait aussi une fonction d'état civil en ce qu'il enregistrait l'appartenance de tout véritable Israélite à la nation. Ainsi, un individu pourra avoir recours à ces listes généalogiques pour prouver qu'il fait bien partie du peuple de Dieu. Il faut garder à l'esprit qu'Israël était alors une théocratie, un État dont l'Éternel est le souverain, ce qui n'a aucun équivalent aujourd'hui, où que ce soit, sur la planète. En ce qui nous concerne, si je suis chrétien, alors je suis aussi et automatiquement engagé, que je le veuille ou pas, dans une lutte sans merci entre le royaume de Dieu et celui de Satan. D'ailleurs, le Nouveau Testament le souligne bien, comme dans le passage suivant. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Fin de citation. Je trouve ce passage désagréable parce qu'il me place en plein champ de bataille, ce que j'ai eu l'occasion de constater dans ma vie à maintes reprises. Or, je préférerais habiter un havre de paix. Mais il faut bien que je me fasse à la présente situation, puisque Jésus lui-même dit dans l'Évangile, et je le cite, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Ma mission n'est pas d'apporter la paix, mais l'épée. » Fin de citation. Je continue le texte. « Il y aura avec vous un homme par tribu, chef de la maison de ses pères, et voici les noms des hommes qui se tiendront avec vous. Pour Ruben, Elitsour, fils de Shedéur. » Versets 4 et 5. L'Éternel demande à ce qu'il y ait un homme responsable pour chacune des 12 tribus, afin que ce recensement ne soit contesté par quiconque. C'est comme pour le dépouillement d'une élection. Il faut qu'il y ait un représentant pour chaque parti politique afin que tout se fasse équitablement. Ruben était le fils premier-né de Jacob, dont le nom fut changé en Israël. Ce Ruben fut mis de côté en ce qui concerne son droit d'aînesse parce qu'il s'était rendu coupable d'une grave offense. Je cite le passage. « Ruben, tu es mon premier-né, le premier fruit de ma vigueur, du temps où j'étais plein de force. Toi, tu es supérieur en dignité et supérieur en force. Bouillonnant comme l'eau, tu n'auras pas le premier rang, car tu as profané la couche de ton père en entrant dans mon lit. » Fin de citation. Ruben était instable comme l'eau. Par contre, Elitsur, son arrière-arrière-petit-fils, a un nom qui veut dire « Mon Dieu est un rocher ». La stabilité de caractère de cet homme contraste avec celui de son ancêtre Ruben. Le roc est fréquemment un symbole de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Voici par exemple ce que déclare le roi David. Je cite « David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de tous ses ennemis. Il dit ceci. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. » Fin de citation. Plus tard, le roc, le rocher, la pierre d'angle deviendront aussi une image de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Cette idée de Dieu assimilée à un roc immuable provient de l'histoire des patriarches qui avaient appris bon an, mal an, à s'appuyer sur l'Éternel, en particulier dans leurs moments de détresse. Ce fut aussi l'expérience du peuple d'Israël qui avait été délivré des Égyptiens par la puissance de leur Dieu. C'est sans aucun doute pour cette raison que le père de Elitsur avait donné à son premier-né ce nom « Mon Dieu est un rocher ». Je me suis laissé dire qu'il y avait une petite dame écossaise, chrétienne, qui avait coutume de dire « Je peux trembler comme une feuille sur mon roc, mais lui, il ne bouge jamais d'un pouce sous moi. » Fin de citation. J'en reviens au clan de Ruben qui fut cité en premier. Les 12 tribus sont rangées d'après l'ordre des femmes de premier et second rang du patriarche Jacob qui donnèrent naissance à 12 garçons. C'est pas tout simple, mais je vais aller doucement. Il y a tout d'abord les représentants des 5 fils de Léa. Elle est l'aînée de 2 sœurs et épouse de premier rang de Jacob. Lévi, pourtant un de ses fils, n'est pas mentionné à cause du rôle sacerdotal de sa tribu. Après les 6 enfants de Léa, viennent les 2 fils de Joseph, lui-même fils de Rachel. Parce que Ruben, le premier-né de Jacob, avait commis un grave méfait en couchant avec la concubine de son père, c'est Joseph qui devint l'héritier du droit d'aînesse et donc qui jouissait d'une double part. En conséquence, ses 2 fils devinrent chefs de tribu à part entière. Au lieu d'une tribu de Joseph, il y a donc 2 tribus, celle d'Éphraïm et celle de Manassé, tous 2 fils de Joseph. Rachel, leur grand-mère, était la sœur cadette de Léa, mais aussi la femme préférée du patriarche. Après ces 2 sœurs sont cités les 4 fils des servantes, qui s'appellent Bilha et Zilpa, concubines de Jacob. Je vais vous faire grâce de la longue liste barbante de noms plutôt difficiles à prononcer qui suivent, le descendant de la tribu de Ruben. À la fin de toute cette énumération, il est précisé la place de ses représentants dans leur clan respectif. Je lis le verset 16. « Tels sont ceux qui furent convoqués à l'assemblée, princes des tribus de leur père, chefs des milliers d'Israël. » Ce furent donc les 12 chefs militaires d'Israël qui prirent part à ce recensement. Avant l'établissement de la monarchie, chaque tribu était responsable de la mobilisation de ses troupes. Sur les 24 noms que comprend la liste que je n'énumère pas, 15 ont une signification religieuse et sont composés avec le nom de Dieu sous diverses formes. Plus tard, une fois que le peuple sera bien installé en Palestine et qu'il se sera mêlé avec les Cananéens, ce que l'Éternel avait pourtant formellement interdit, les noms profanes deviendront de loin les plus courants. Même si ces généalogies sont niaillantes, il faut bien remarquer qu'elles sont très importantes tout au long des textes sacrés. Elles débutent déjà dans le livre de la Genèse, où certaines lignées sont mentionnées une seule fois, puis laissées de côté et oubliées. Ainsi, nous avons par exemple celle de Caïn, qui assassina son frère, ou encore Ésaü, pourtant jumeau du patriarche Jacob. Par contre, la descendance d'où sera issu le Christ revient sans cesse. C'est pour cela que la généalogie de Jacob, qui comprendra son fils Judas, est conservée tout au long des Écritures. La raison primordiale est qu'il fallait bien sûr préserver la filiation, l'ascendance de Jésus-Christ qui est de la lignée royale et qui remonte jusqu'à Judas et Jacob. Le Nouveau Testament, avec l'évangile de Matthieu, débute par une généalogie qui fait remonter le Christ jusqu'au roi David, de la tribu de Judas. Lorsque Jésus se déclara prétendant au trône, ses ennemis ont certainement dû aller en mairie, c'est-à-dire le temple pour les Juifs, bien sûr, afin de voir de quelle famille et de quelle tribu il était issu. Il est intéressant de remarquer que son droit n'a jamais été contesté par les religieux sur une base généalogique. La deuxième raison pour ces listes à n'en plus finir est que Dieu interdisait les mariages mixtes entre un Hébreu et un Cananéen. Aussi, un véritable Israélite devait toujours pouvoir prouver qu'il était de la race d'Abraham et ainsi au bénéfice de l'alliance que l'Éternel fit avec le patriarche fondateur de la nation. De plus, les différentes fonctions sacerdotales étaient réservées à des familles spécifiques appartenant toutes à la tribu de Lévi. Ainsi, les prêtres étaient tous descendants de la famille de Aaron, frère de Moïse. Par contre, aucun petit-fils du grand prophète, que fut pourtant Moïse, n'avait le droit d'exercer la prêtrise. Un exemple de l'importance de son appartenance à la famille d'Aaron nous est donné dans un des livres historiques de l'Ancien Testament. Je cite le passage. « Et parmi les prêtres, les descendants de Obaya, d'Akots et de Barzilaï recherchèrent leur registre généalogique, mais ne les trouvèrent pas. Ils furent donc disqualifiés pour l'exercice du sacerdoce. » Fin de citation. Dans l'économie divine, n'importe qui ne fait pas n'importe quoi quand il en a envie. On ne devenait pas non plus hébreu en s'efforçant de l'être, en suivant certains rites, ou que sais-je. Mais on naissait de la race d'Israël dans une famille d'une des 12 tribus, 13, si on inclut les Lévites. C'est d'ailleurs pareil pour les chrétiens. On ne le devient pas en faisant quelque chose, que ce soit une bonne action ou en passant par un sacrement. Non. Alors que chacun d'entre nous est né d'en bas, c'est-à-dire de parents ordinaires, on devient enfant de Dieu et donc frère ou sœur spirituelle de Jésus-Christ en naissant d'en haut, dans sa famille. C'est ce que le Nouveau Testament appelle aussi la nouvelle naissance. Mais nous verrons cela la prochaine fois.